urbain.
Et bien ça, c'est des mots de PPRI Cournot, en quelque sorte, la notion de transparence hydraulique.
Souvent, on imagine la transparence hydraulique comme étant, on laisse, la ville doit laisser passer la pluie, donc dans le sens du cours d'eau. Mais en fait, aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose la question de la ville qui laisse passer les ruissellements qui vont vers le cours d'eau. Et c'est, je pense, et là, on est en train de reparler du réseau hydrographique de cet espace urbain, qui s'est posé sur un réseau hydrographique. Donc, enfin moi je le sais bien, puisque en Seine-Saint-Denis, le réseau hydrographique qui était assez beau au début du XXe siècle, en 40 ans, il a été inexistant. On a tout busé ici. Voilà.
Donc, on réouvre maintenant, c'est bien.
Pardon ?
On réouvre maintenant.
Oui, c'est ça, on réouvre maintenant. On réouvre maintenant, en fait, maintenant on est en train de réouvrir tout ce qu'on a couvert. Et on a refait aussi tous les tramways qu'on a virés avant. On est un pays riche et c'est super. mais c'est vrai que c'est important de retrouver ces eaux hydrographiques parce que c'est lui qui va permettre de réguler, juste de régler, ces problèmes de pluviométrie.
Du coup, sur les règles, ça vous semble toujours pertinent de conserver des règles au moment d'un abattement zéro voisin jusqu'à une pluie décennale de 50 mètres, tout en étant mesuré dans l'application.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment affirmer, plutôt que des habitudes, il faut vraiment affirmer un zéro rejet. En revanche, être beaucoup plus souple sur la négociation, mais donc ça veut dire avoir des gens. C'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir des équipes. Il faut avoir des services publics. Pour pouvoir négocier des si c'est pas possible, parce que c'est souvent pas possible hein, quand même. Si c'est pas possible, de vraiment réfléchir sur comment faire un projet quand même intéressant, mais qui soit pas en zéro rejet. Et puis en revanche, on peut être sachez que en plus courante, on peut tout le temps en zéro rejet. Ça c'est possible.
Le message qu'on va passer, c'est jusqu'à la décennale.
Voilà. Et la décennale, ça dépend vraiment de la perméabilité. Si on est sur sincèrement, hein, si on est sur... Et comme vous le disiez un moment tout à l'heure, c'est dans les villes denses avec une zone. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de surface d'infiltration si on a une perméabilité faible. Et ça, on ne l'a pas toujours sur une opération d'aménagement. Et alors, d'ailleurs, la plupart des opérations d'aménagement aujourd'hui, c'est il y a un parc central et toutes les eaux vont dans le parc. Et on dit, bon, bah, ok, super, on stocke et on infiltre. Sauf que déjà, il faut amener l'eau dans le parc, donc c'est des tuyaux, donc on décaisse vachement le parc. Moi, je travaille sans tuyaux, donc j'essaie de faire que du ruissellement de surface pour aller dans le parc, mais c'est compliqué. Et puis, du coup, il faut que tous les acteurs le veuillent. Il faut tenir le choc pendant une opération d'aménagement. Des fois, c'est 10 ans de études, travaux, etc. Il faut tenir le cap tout le temps. Et on arrive à donc pas trop décaisser le parc. Il faut très, très bien planter. Et puis, on va quand même avoir des temps de vidange, des fois, relativement. Et puis aussi, truc important, il faut savoir ça, c'est qu'on parle d'une perméabilité. Mais cette perméabilité avant l'opération, on n'est même pas certain de l'avoir après l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois des sagouins. C'est pas sur des opérations d'aménagement, ça va encore. Quand c'est de la puissance publique, quand c'est un aménageur public, ça va. Quand c'est un promoteur, genre permis de construire, la perméabilité, elle est complètement morte à la fin du projet. C'est-à-dire que quand on a fait toutes nos notes de calcul avec une certaine perméabilité, on ne va pas la retrouver, cette perméabilité. Souvent, le sol est mort, donc il a même plus de... Donc il n'infiltre plus. Il va falloir réamender. Donc vous voyez, rien que ça, déjà, c'est très qualitatif de penser au sol. Mais un promoteur, lui, le sol, il s'en fiche complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des fois, on parle de règles qui ne sont même pas... qu'on n'arrivera pas avec les acteurs qu'on a à pouvoir mettre en place réellement. C'est-à-dire que, évidemment, que sur une opération d'aménagement, on va avoir plus de facilité à mettre en place certaines règles, et encore, des fois, c'est complexe. Mais avec des promoteurs, sachez-le, c'est en plus très compliqué. Même le levier agence de l'eau ne marche pas toujours. Moi, j'utilise beaucoup le levier agence de l'eau, mais un promoteur, s'il a l'argent, il s'en fiche, il veut, c'est aller vite. Donc,
c'est encore plus compliqué quand on est dans des opérations dans le
Oui, oui, bien évidemment.
Quand on est dans des discussions d'urbanisme négocié, on essaye d'adapter entre la règle et aussi des exigences autres, le promoteur, on n'arrive à rien en fait. C'est un peu compliqué.
C'est ça, la difficulté, c'est quand...
On a besoin de règles pour obliger à, et en même temps, il faut qu'on se garde une marge de souplesse pour aller plus, être plus exigeant, ou être du coup, des fois, très restrictif.
Sur Saint-Laurent-des-Chaussées, on a fait une opération.
Parce que dans le diffus, on n'a pas les moyens techniques
Et surtout, souvent, on nous dit non, c'est impossible. Quand on commence à négocier avec le promoteur, non, c'est impossible, on n'a pas de foncier, le sol n'infiltre pas, il y a tel ou tel contraint. Et finalement, quand on rentre un petit peu plus dans le projet et quand on est plutôt dans l'accompagnement, alors on dit, mais regardez, là, vous avez un espace, vous n'avez pas exploité, un espace bien planté, c'est pas exploité, alors la topographie est favorable, là, vous avez une toiture, elle n'est pas végétalisée, vous n'aurez pas exploité. Donc c'est en ça que parfois ils nous disent, non, votre règle est trop stricte, alors qu'en réalité, s'ils exploitaient tous les petits endroits, ces espaces, ils pourraient atteindre cet objectif facilement.
Ouais, ben,
c'est pour ça que c'est dur de parfois savoir où. Est-ce qu'on lâche un peu parce que la règle est trop stricte, ou est-ce que c'est parce que ça n'a pas été bien pris en compte dès l'amont du projet?
Petit point timing, il est déjà 11h passé, donc je ne sais pas au niveau de la présentation. Il y a encore la présentation de la docta derrière, c'est pour les questions, peut-être qu'à la fin, ce sera plus, on aura plus de temps.
Effectivement, donc, est-ce que je continue
ou pas? Oui, bah, bien sûr.
Okay. Non, c'est juste pour donc vous montrer, voilà, donc ça, Cécile. Ça sert avant qu'on plante. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que la palette végétale qu'on a proposée, ça a été, c'est les services techniques, les services espacaires qui se l'ont approprié et qui ont planté eux-mêmes. Donc ils ont choisi ce qu'ils voulaient et ça s'est plutôt bien passé. Mais on a livré tout le nivellement fait, les terrassements faits, voilà. Et en fait, voilà, ce sont les jardiniers qui ont planté. Et ce qui est très intéressant, c'est que les jardiniers comprennent aujourd'hui, enfin ils savent totalement comment tout fonctionne. C'est d'ailleurs un projet qui est très très bien entretenu. Moi, ça m'est arrivé de parler avec les jardiniers, ils expliquent tout le fonctionnement hydraulique, ils savent pourquoi ça marche comme ça, etc. Ce qui est quand même très rare. Donc il y a une très très bonne appropriation. Et d'ailleurs, sur l'année dernière, quand il y a un projet à nouveau de requalification, ils essaient de redévelopper le même type de démarche. C'est important ce genre de projet parce que bon, c'est un petit projet, mais la ville elle se reconstruit tout le temps par des petits projets comme ça. Et si à chaque fois on est en zéro rejet, on essaie de faire des trucs de cette importance, enfin, ceci dit, c'est pas plus cher qu'un projet de voirie. Si on l'avait fait à l'identique, il serait pas plus cher. Mais il est pas moins cher, et surtout, c'est beaucoup plus de travail hein, quand même. Sachez-le, donc, c'est plus de travail, plus de réunions, plus de gens à convaincre. C'est ça le frein à ce développement-là. C'est pour ça que la règle, les services doivent accompagner. Par exemple, aujourd'hui, moi, je travaille sur des projets qui sont des fois, vous savez, des solutions fondées sur la nature, donc développement durable, etc. Sauf qu'à un moment, pour répondre dans le cadre d'un dossier ressources, tout simplement, des fois, il faut pouvoir répondre à des questions qui sont des questions qui appartiennent encore à une approche plus classique, un tout petit peu plus classique. Parfois, quand on essaie de remettre en fonctionnement un cycle de l'eau naturel sur une opération, ben, en fait, on n'a pas forcément les réponses qu'on pourrait avoir dans une note de calcul d'hydrologie urbaine classique. Parce qu'on ne connaît pas tout, parce qu'on joue sur l'eau qui va couler dans le sol, des choses comme ça. Et pour refaire, c'est juste pour vous dire que là, par exemple, un projet comme ça, c'est simple. On a des découpages en sous-bassin versant, on a des perméabilités, on s'est donné un volume, un temps de vidange, etc. Mais si on veut aller plus loin encore, eh bien on ne sait plus bien répondre à toutes les questions qu'un service instructeur peut avoir dans le cadre d'un dossier sur l'eau, par exemple. Et ce n'est pas pour autant que le projet est mauvais. Et c'est ça qu'il faut arriver, parce qu'on est sur de l'innovation, on est sur des choses, des fois, qu'on ne sait pas encore bien faire, mais qu'il faut absolument tenter, parce qu'en fait, c'est ça, l'avenir, il est là. Et donc, ce n'est pas forcément des très grands projets, ça peut être des petits, au contraire, faut commencer par des petits, et c'est comme ça qu'on va apprendre. Mais il faut accepter aussi c'est pour ça que ça demande une vraie synergie entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et et même, je pense, les services police de l'eau, les services aussi. Alors, quand on a l'agence de l'eau avec nous, c'est bien aussi parce que ça permet de créer du lien, de faire au-delà de l'aspect subvention. Ça permet aussi de crédibiliser une démarche qui est quand même très importante. Sur un projet comme ça, par exemple, c'est à l'époque, on l'a fait, il n'y avait pas beaucoup de projets comme ça. Et donc, le fait d'avoir là, il y avait le département qui subventionnait, il y avait l'agence de l'eau et la région. Donc là, pour la ville, ça a coûté très très peu d'argent en réalité ce projet-là.
Et quelles données vous manquent du coup dans les. Il pourrait vous manquer tout ce qui est lié à l'infiltration, à l'évapotranspiration par exemple. Ouh,
ah oui, tout à, alors là on essaye en ce moment de travailler sur l'évapotranspiration, notamment avec le CEREMA, le LESU, parce que petit à petit, moi nous ça nous intéresse, parce qu'on travaille beaucoup sur. En fait, on base beaucoup de choses sur l'évapotranspiration et on ne sait pas encore bien les intégrer dans nos méthodes de calcul. Donc ça veut dire. Il y a des programmes de recherche aujourd'hui avec Opure et puis la ville de Paris. Donc petit à petit, on va avoir des choses, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ça, c'est. Mais en même temps, on sait aussi qu'on ne se trompe pas. On ne sait pas encore dimensionner, mais on sait qu'on ne se trompe pas sur certaines approches. Notamment pour les. Par exemple, une plus de 10 mm, on sait la gérer. Sans forcément faire des notes de calcul et démontrer que. On sait la gérer tout simplement parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par notamment la ville de Paris sur les tuteurs végétalisés, avec des épaisseurs de substrat. Donc petit à petit, on arrive à déduire les choses. Mais on n'a pas encore de modèle bien établi là-dessus.
Sur les
hauteurs
de substrat, vous allez sur les modèles de Paris
pour
sur les hauteurs de substrat.
Tout à fait. On sait que par exemple, si on met 5 cm d'eau, on l'évacue en 24 heures. Donc on sait qu'en gérant une pluie courante sur. Et qu'on arrive à avoir que 5 cm d'eau dans un espace végétalisé, on sait répondre à l'abattement 24 heures d'une pluie courante.
Par évapotranspiration.
Okay.
Moi j'avais la question sur les réseaux hydrologiques.
Oui.
Est-ce qu'il y a. Enfin, je sais pour en avoir trouvé quelques-uns sur Internet, mais est-ce que cet inventaire des réseaux hydrologiques est assez fréquent? Est-ce que par le passé, il y avait une connaissance? Vous parliez avec les vieux briscards. et est-ce que c'est quelque part? Est-ce qu'il y a un inventaire?
Ben oui, parce que je pense l'Adriat a mis en place tout ce qui est masse d'eau. Donc tous les réseaux hydrographiques, aujourd'hui, sont... on peut les trouver dans les différents... Sur la petite couronne parisienne, toutes les directions de l'eau, elles les ont. Mais en tout cas, je sais que à l'époque où c'était l'Adria encore, je sais qu'ils avaient travaillé sur une base de données de ces cours d'eau et qui sont cartographiés.
Sur le site, on a une cartographie sur le site de l'Adria.
Voilà. Mais les sages, c'est un très bon outil pour connaître justement ce réseau hydrographique. Moi, quand j'ai besoin de connaître, je vais voir s'il y a un sage, et je vais sur le site du sage, et je trouve les infos comme ça aussi.
Sur Geste Eau.
Oui, voilà, c'est ça, Geste Eau. Peut-être je vais vous montrer un projet qui est assez intéressant. Je passe celui-là, mais... J'ai du temps, hein, quoi.
10 minutes.
10 minutes,
ce serait bien.
Alors, si, je vais faire les essais de roi vite fait. Donc, c'est dans le 78. Les gens viennent m'appeler pour travailler sur un parking. Parce qu'en gros, ils veulent une gestion alternative et puis un accompagnement de l'agence de l'eau, etc. On regarde le parking, on regarde l'endroit, et puis je me tourne et je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un bassin de retenue, on ne sait pas trop, il existe depuis 30-40 ans sur la ville, mais on ne sait pas trop comment il fonctionne. Il reprend la moitié de la ville en eau pluviale. Il s'appelle le bassin des Gandines. Il est d'ailleurs sur le rue des Gandines, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le rue des Gandines, qui va se jeter dans l'Yvette. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait, on pourrait très bien... Donc là, vous voyez, ça c'est le parking sur lequel... il voulait faire une requalification avec des techniques alternatives. Et ça, c'est le bassin que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Et en fait, on est à l'entrée de ville, on a un giratoire où les voitures vont assez vite, et puis après, on rentre dans les essarts d'avant comme ça. Et je leur dis, mais si on arrive à avoir une approche entrée de ville, aménagement, ouvrir au public le bassin de retenue, retravailler sur la rigole d'assainissement qui est ici, la mettre à ciel ouvert, végétaliser, intégrer le stationnement, etc. En fait, on essaye d'avoir l'agence de l'eau, la région, etc. On arrive au fait à monter un projet qui est finançable, peut-être. Voilà. Et donc, du coup, la ville dit OK, banco, on démarre cette étude. Et donc avec une approche sur l'ouverture au public du bassin des Gandines et puis le futur parking avec une gestion alternative du pluvial. Et puis surtout, on intègre ça dans les chemins d'eau, dans le réseau hydrographique, l'Yvette étant sur la droite. Et puis là, on a donc cette, ce parc qui devient, en fait, ce bassin qui devient un parc avec un parvis. Et puis, mais en même temps, on relie ça avec des chemins de grande randonnée, avec de la mobilité. Et puis, voilà, ça devient ça. Et là, on joue sur. Donc, ça, c'est le bassin. Ce que vous voyez en pointillé, c'est l'ancien bassin. Et on assume totalement d'être en soutènement, là, très, 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 très abrupt. Mais pour gagner, pour avoir le même volume. Du coup, on remblaye, on terrasse ici, on déblaye ici, on remblaye là, et on a du coup des pentes beaucoup plus douces qui nous permettent d'avoir une plage et d'avoir un accès au public sans dangerosité trop importante. Et puis là, on a plutôt une zone humide qui est peut-être moins accessible au public.
Le soutènement, c'est pour la route ?
Pardon ?
Excusez-moi, le soutènement, c'est la route ?
Oui, le soutènement, c'est le tabutage qu'on va faire ici. Du coup, qui est presque un mur en abrupt, en fait, vous allez voir, on a fait en gabion. Au départ, ça devait être du génie végétal, on n'a pas réussi à le faire comme ça. Et on a intégré petit à petit la grande rigole qui amène l'eau pluviale de la ville. Et puis, donc on démontre à la ville qu'on a le même type de protection par rapport aux périodes de retour. Ça, c'est les différents plans, je passe un peu. Et ce qui est intéressant à voir, c'est... Donc là, on essaye de retrouver le chemin de l'eau qu'on avait avant. Voilà, ça c'est les photos de chantier avec le terrassement, le soutènement. Toujours pendant tout, bon, c'est un chantier qui a duré très très longtemps parce que c'est un bassin retenu, donc avec tous les intempéries, à chaque fois l'eau arrivait dedans. Plus le Covid nous est tombé sur la tête, donc le truc il a duré 2 ans et demi. Mais on était très contents à la fin de ça. Ça c'est le parking avec déjà les premiers biefs, hein, c'est une gestion par des nous et des biefs.
Je vous demandais justement c'était quoi un bief.
Un bief.
Oui.
Donc c'est une cloison qui va permettre de ne pas retrouver toute l'eau en point bas, mais qu'on va séquencer le stockage. Et du coup d'ailleurs, c'est important, cette question est importante, parce que pour nous la note de calcul, à chaque bief égale une ligne de calcul dans le fichier, dans le tableur.
Du coup est-ce que c'est un peu comme... Enfin, si je prends l'exemple du nounou, est-ce que c'est le fait, par exemple, qu'on va retrouver les redents dans la noue ?
Voilà, c'est ça. En fait, tu noues, le bief, ça va être pour pallier au problème de la pente en l'eau. Et si on ne veut pas retrouver toute l'eau dans le point bas, parce que dans ce cas-là, on a concentré, on ne sait plus gérer, on ne sait plus stocker, on ne sait plus non plus infiltrer, pour séquencer l'infiltration, on va faire des biefs. Plus la pente va être importante, plus on va avoir de ventes de biefs. Donc à un moment, la noue, elle va être, par exemple, il va y avoir trop de biefs. Donc trop de bief veut dire bon ben on va pas faire, c'est pas la bonne technique, la pente est trop forte, c'est ça que ça veut dire.
Et les biefs ils laissent passer l'eau.
Après sur un petit bief on verra, mais un petit bief il y a, alors si c'est que du zéro rejet on laisse pas passer l'eau, il y a pas de petit trou dans la cloison de bief, c'est-à-dire tout va s'infiltrer. Si c'est les deux, si c'est plus courant en zéro rejet et le reste en débit limité, on va caler le rejet de chaque bief au-dessus de la plus courante et on va écouler un débit de fuite. Bon là je passe comme ça les photos, ça c'est donc la rigole qui amène l'eau dans l'ouvrage, dans le dispositif qui en ouvre au public. Ça c'est donc ces dessins de l'eau là, qu'on a réussi à préserver jusqu'au bout, et vous allez voir. Donc ça reste un bassin de retenue, hein. Ça c'est quand même la sortie, ça c'est une arrivée avec aussi la casquette qui permet d'avoir une cascade d'eau. Ça c'est l'eau du parking qui va arriver ici. Là on a commencé à retravailler nos ripisils le long de ces chemins d'eau. Ça c'est les garde-corps qui, vous voyez, sont assez importants. Donc, on a commencé notre talutage avant pour pouvoir intégrer les garde-corps. Sans qu'ils aient un impact visuel trop important. Et pareil, ça c'est des techniques presque de hydromorphologie, c'est-à-dire de cours d'eau. On a planté nos arbres un peu sur des petites îles pour qu'en cas d'inondation, on ait des arbres quand même qui se ressuient en vidange. Ça c'est les chemins d'eau qui viennent du stationnement. Là, vous voyez, ça, c'était l'existant. Et voilà, après, on crée nos biefs, on crée notre terrassement, et ça devient ça.
Du coup, il n'y a pas de séparateur hydrocarbure, parce qu'il y a une...
Non, jamais.
Ça ne sert à rien.
Jamais de séparateur hydrocarbure. Mais oui, et il n'y a pas toujours non plus de filtre planté, par exemple. Enfin, c'est tout l'intérêt de l'étude qui avait été faite par l'agence de l'eau il y a maintenant quand même pas mal de temps, qui a pu mettre en évidence que du coup de fait, il y avait assez peu de bassins versants qui demandaient d'avoir une dépollution à partir du moment où on concentre pas ces effluents et qu'on va jouer sur la fonction auto-épurateur du sol, voire un abattement par ruissellement de surface. Hein, c'est ce qui se passe sur ce parking. Là, sur ce parking, il n'y a aucun avaloir, aucun tuyau. Du coup, oui, on ne parle pas du coup de dépollution. Mais c'est important de savoir ça, c'est-à-dire que toutes les tests qui ont été faites, la première, enfin, c'était à Delbrécy sur la Seine-Saint-Denis, justement, sur un bassin versant de Seine-Saint-Denis, qui a démontré qu'il voulait mesurer la qualité de l'eau là où elle ruisselle. En fait, elle est tellement fine qu'on n'arrivait pas à mesurer ces problèmes de pollution. On sait que c'est pollué, mais c'est tellement peu pollué là où le ruissellement démarre qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut justement jouer sur la fonction auto-épurateur du sol. C'est quand c'est pas trop concentré, et c'est typiquement ça. Et là, on est vraiment dans du développement durable, c'est-à-dire qu'en fait, on ne suréquipe pas nos projets.
La pollution des hydrocarbures, elle est gérée par les...
C'est ça, c'est ça. Oui, par exemple, vous pouvez aussi aller voir la thèse de Damien Tedoldi. Elle est intéressante parce que, en plus, elle était vachement importante pour moi parce qu'il a aussi il a intégré dans sa thèse le suivi d'un parking que j'avais fait quand j'étais à la DEA 93, où on a travaillé sans séparateur, sans tuyaux, sans rien, que du ruissellement de surface, et on alimente des nous. C'est le parking, tout ça, un parking du parc du Saussay à Orléans-sous-Bois. Et il l'a équipé, il l'a suivi, et il démontre qu'il n'y a aucune pollution du sol, alors que c'est un parking qui fait 2 hectares. Et donc c'est intéressant de savoir ça, parce que ça veut dire que voilà, on peut peut-être construire des choses aujourd'hui différentes.
Et ce qui est intéressant aussi dans la thèse, c'est qu'il met aussi l'accent sur le point d'entrée, justement, quand on va faire une technique alternative au niveau du point d'entrée de l'eau. Justement, il a fait une étude qui permet de voir finalement que quand c'est en entrée de l'ouvrage que la pollution va être le mieux gérée, et qu'il n'y a pas forcément une diffusion de la pollution, enfin en tout cas de la contamination, à l'échelle de toute la surface d'infiltration. Ce qui permet aussi, entre guillemets, de lever le frein qu'il pourrait y avoir à se dire on ne va pas faire d'infiltration parce que...
Alors, dans l'eau, j'imagine qu'il a fait ses prélèvements, enfin, il a fait sa démonstration sur
le sol. Non, dans le sol.
Dans le sol. Et dans les végétaux qu'il a fait aussi
Ça, je ne sais pas, mais par contre, en fait, on sait que le végétal, il intègre assez peu de pollution, en fait. C'est dans le sol qu'on va...
Ben, c'est un jeu sur la matière, la fraction organique du sol, parce que justement, il montre que c'est dans les 30 premiers centimètres de terre végétale du sol que la pollution qui va être d'origine particulière va pouvoir être accrochée. Donc si en plus de ça, on ajoute finalement la microbiote, donc du coup tous les micro-organismes qui vont être présents dans le sol, eux aussi vont avoir un facteur de biodégradation qui va encourager encore plus le traitement de la pollution. Et dans son étude, il montre aussi que justement, quand on va réaliser une noue et qu'on va décaisser, étant donné que c'est dans les 30 premiers centimètres qu'on va avoir le maximum de fraction organique qui va contribuer à lutter contre la pollution, il est conseillé parfois justement au niveau du tassement de la noue, par exemple, de récupérer justement ce volume qui aurait été décaissé pour le mettre et pour justement, entre guillemets, éviter un éventuel transport de la pollution vers le sous-sol. Mais du coup, elle est très intéressante.
Et une autre question, souvent c'est une préoccupation, c'est donc nous, en fait, en temps estival, en fait, peuvent devenir de l'eau non courante. Quid des moustiques et autres désagréments de ce
type ? Pareil, les temps de séjour de l'eau, c'est pour ça que c'est important les temps de vidange d'ailleurs. Mais il y a un travail qui a été encadré par Bernard Stockel, du Talion, qui a démontré que les stockages, souvent, n'étaient pas facteurs de développement des moustiques, parce que le temps, la ponte et le temps de développement étaient trop longs par rapport au fonctionnement hydraulique d'un ouvrage de stockage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous faites une zone, par exemple, ce que je suis en train de montrer là, voilà, ça, c'est une zone avec un écosystème. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'évapotranspiration, on va avoir de l'infiltration, on va avoir plein de choses. Et ça, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de surdéveloppement de moustiques.
Autre chose, c'est que les moustiques type, etc., on sait qu'aujourd'hui, ils se développent dans des coupelles de pots de fleurs. C'est pas du tout dans des grandes masses d'eau. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que on essaie de chasser toutes les coupelles de pots de fleurs, de l'eau stagnante, dans les petites coupes. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, la prolifération de certains moustiques, c'est comme ça. Donc voilà, ça, c'est très important. Et donc, du coup, de penser à l'écosystème. Le fait qu'on n'ait pas d'eutrophisation, même quand on fait un bassin en eau permanente, hein, c'est important ça. Si on fait un bassin en eau permanente, il faut mettre en place certains dispositifs pour qu'il n'y ait pas d'eutrophisation et donc pour qu'il n'y ait pas de prolifération de moustiques.
Je peux vous demander de conclure ?
Oui. Juste, bon, non, mais de toute façon, je vais conclure, mais. Je vous montre un pavé d'enjanté, c'est intéressant à voir. En fait, tout à l'heure, on parlait des périodes de retour. Eh bien, mon coefficient de ruissellement, il va évoluer en fonction de la pluie aussi. C'est-à-dire que si une pluie courante, je suis à 10 mm, mais en fait, c'est les 10 mm, c'est surtout la faible intensité d'une pluie courante qui fait que là, je vais peut-être avoir un coefficient de ruissellement de 0,5 ou de 0,6. Mais si j'ai une pluie 50 ans, même décennale déjà, sur un matériau comme ça, en fait, j'ai presque un coefficient de ruissellement d'une voirie. Vous voyez ? Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire, c'est pas. En fait, tout ça, c'est dynamique. L'eau, en fait, voilà, c'est ça que je voudrais peut-être. Le mot. C'est que moi, de plus en plus sur des projets, je me rends compte qu'on a trop longtemps regardé les choses en étant déjà, un, théorique, très théorique, et deux, statique. C'est-à-dire, on a raisonné volume, on a raisonné débitude. Mais en fait, l'eau, elle bouge. Et en fait, elle surverse. Et puis, c'est normal. Donc, il faut vraiment intégrer ça. Par exemple, un truc, on parle des imperméabilisés, en fait, il y a des espaces qui sont certes désimperméabilisés, mais on aura quand même, avec une pluie très forte, on aura du ruissellement. Et ça, il faut l'intégrer, ça, il faut le savoir. C'est pas grave en soi, c'est normal, c'est la nature. Il faut juste se lâcher un petit peu, et il n'y a pas que, on peut pas tout régler. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Et il faut accepter aussi, voilà, cet état-là. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on va vers des situations qui vont être plus difficiles. Donc, peut-être, il faut juste accepter ce choix. Notamment les chemins de l'eau, je pense que c'est très important d'accepter cette notion-là. Voilà.
Sur la rue Saint-Valéry, par exemple, au-delà de la pluie de dimensionnement, parce que je sais pas quelle.
Alors oui, sur la rue Saint-Valéry, on s'est posé la question de la pluie supérieure à 10 ans. Et en fait, on va avoir des grandes flaques d'eau tout autour de nos points bas. Parce qu'en fait, on est sur un plateau et on a créé des points. On est très statique. Donc même si on est depuis 50 ans, on ne va pas déborder ailleurs. Mais par contre, tout va dépendre de la perméabilité du sol pour l'évacuation de ces puits supérieurs à décennale. Mais si on est sur du 10-6, on va avoir une étendue d'ange relativement intéressante. Surtout qu'on en a mis, 4. Il y a 4 dispositifs de stockage. Mais imaginons qu'on n'en ait mis qu'un seul, avec de l'eau qui arrive par des avaleurs et des tuyaux. Alors là, on aurait beaucoup plus, avec une surface d'infiltration plus petite, du coup. On aurait eu des temps de vidange beaucoup plus longs. Donc c'est vraiment très important, c'est la démarche de projet, l'approche, les découpages de bassins versants, les micro-stockages et les micro... Je pense que les micro-stockages et les micro-bassins versants, c'est une méthodologie en soi.
Voilà. Il est le plus possible de trouver un maximum de solutions.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
S'il y a des questions, on peut peut-être poursuivre après.
À la fin de la réunion.